En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Dans le cadre du colloque international Guerre et politique, initié par l'académicien Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques, Canal Académie vous propose d'écouter la communication d'Yves Boyer, professeur à l'École polytechnique et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Son intervention s'intitule « Penser, préparer et faire la guerre à l'américaine ». C'était à la Fondation Del Duca, à Paris, le 18 janvier 2013.
Merci, Monsieur le Président. Alors, le sujet est extrêmement vaste et je n'aborderai pas la totalité des paramètres de ce sujet, et notamment je n'évoquerai pas la guerre de sécession. Alors, dans un premier temps, je voudrais remonter aux origines de la République américaine pour souligner un certain nombre de traits caractéristiques de la façon dont les Américains pensent et font la guerre. Alors, le premier point que je souhaite souligner, c'est l'absence d'une aristocratie militaire qui explique qu'aux États-Unis, les civils sont traditionnellement davantage présents dans les affaires militaires qu'en Europe. Alors, quelques exemples, c'est évidemment les pères fondateurs qui vont diriger les troupes de la jeune République américaine. C'est une des grandes figures de l'épopée américaine, c'est Andrew Jackson, qui va massacrer les Indiens séminoles en Floride. Mais Jackson, il est essentiellement civil. Alors, il va devenir militaire par la force des choses, mais c'est un civil. Dans cette perspective, il faut souligner aussi le rôle des entrepreneurs privés qui vont jouer un rôle toujours important dans la façon dont les Américains font la guerre. Deux exemples, un lié à l'histoire des États-Unis, c'est le rôle de la famille Austin. On connaît tous la ville d'Austin au Texas. Donc c'est cette famille, elle s'installe dans ce qui était les terres mexicaines, elle s'implante là, elle développe ses terres, et il y a un moment où elle souhaite s'émanciper de la tutelle du Mexique. Et donc la famille Austin va lever une milice, ils vont remporter une grande bataille américaine, bien que ce ne soit pas la République américaine, c'est la bataille de San Jacinto en 1836, et ça va déboucher sur l'indépendance du Texas, et la République du Texas va être reconnue par la France et va être reconnue par la République des États-Unis. Voilà, ensuite, ils seront incorporés dans la République. Autre famille de civils, les frères Ritchie. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Ritchie, mais les frères Ritchie sont deux Américains qui ont été élevés en Afghanistan parce que leur père était pasteur en Afghanistan dans les années 1960, etc. Et puis, bon, ils reviennent aux États-Unis, ils font fortune, ce sont des milliardaires, et ils ont toujours gardé un grand amour pour ce pays. Et lorsque les talibans arrivent au pouvoir, etc., ils se disent qu'il faut faire quelque chose pour ce malheureux pays. Et quelques semaines, quelques mois avant l'intervention américaine, à l'issue des attentats du 11 septembre, eh bien, ils vont monter une opération. Ils ont quelques contacts à la CIA, quelques contacts au Conseil de sécurité, et ils vont lancer une opération commando qui va consister à infiltrer en Afghanistan un leader afghan réputé, Abdul Haq, qui, pensait-il, allait soulever la population contre les talibans. Bon, manque de chance, Abdul Haq va être repéré tout de suite par les talibans et il va être pendu. Mais donc, tout ça pour montrer qu'il y a des entrepreneurs individuels qui se mêlent, de la sécurité, finalement, des États-Unis. Autre caractéristique aux États-Unis, l'absence, pendant une très longue période, d'une structure centrale de commandement. Il faudra attendre la fin de la guerre avec l'Espagne, il faudra attendre 1903 pour que soit créé le poste de chef d'état-major de l'armée de terre. Et cette même année, on crée non pas un état-major, mais ce qu'on appelait un bureau conjoint armée de terre-marine chargé d'organiser la coopération entre ces deux armées. Et ce Joint Army Navy Board sera placé sous la supervision directe du président en 1939. Et il sera remplacé en 1947 par une structure sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Du côté de la marine, eh bien, il faut attendre 1915 pour que soit créé le poste de chef d'état-major de la marine. Autre caractéristique aux États-Unis, c'est l'apprentissage progressif de la guerre et de la stratégie. En effet, au début de la République américaine, au début du XIXe siècle, les effectifs militaires sont extrêmement modestes et les fonctions des forces armées sont également très modestes. Il s'agit de surveiller la frontière, les frontières mouvantes qui se déplacent vers l'ouest. Et à cette occasion, eh bien, ça produit des frictions avec les Indiens. Et là, on mène une petite guerre face aux Indiens, qui plus souvent seront exterminés. Ce sera déjà le début du nettoyage ethnique, en quelque sorte. Autre fonction des forces armées américaines, c'est exercer un rôle de douanier. Il faut surveiller la frontière avec la frontière nord, avec le Canada. Et donc là, ben, on contrôle. Et pour contrôler, on place l'armée parce qu'on n'a pas de douanier. Et puis, dernier point qui a une certaine importance, c'est armer les forts et les batteries côtières. En effet, pour les États-Unis, la menace principale, elle ne peut venir que de la mer. Et que de la mer, parce que les puissances européennes, qui pourraient avoir des velléités de prendre des terres dans ce vaste territoire qui n'est pas encore totalement celui de la République américaine, eh bien, l'idée aux États-Unis, c'est de considérer que ces puissances européennes pourraient établir des comptoirs côtiers, et ces comptoirs côtiers serviraient à, j'allais dire, fournir du charbon, etc., aux flottes de guerre de ces pays européens. Et d'ailleurs, on voit les Russes établir ce qui est maintenant Fort Ross, dans le comté de Sonoma, à 200 km de la baie de San Francisco. Ils établissent un comptoir et les Américains pensent que ce comptoir pourrait servir à la marine de guerre russe, eh bien, de venir dans cette zone. Et c'est cet événement qui est à l'origine de la doctrine Monroe. Et donc là, le président des États-Unis va mettre un arrêt ferme à la chose. Et ce qui est souvent ignoré ou passé sous silence, c'est qu'en même temps que le président énonce sa doctrine, il adresse un message au Congrès dans lequel il dit « La marine, c'est l'outil principal de la défense des États-Unis ». Donc dès 1824-25, peu importe, on voit qu'aux États-Unis, la marine, la puissance navale, va jouer un rôle considérable dans leur histoire. Et ce développement de la marine va de pair avec le sentiment de plus en plus marqué que les États-Unis, c'est une île, alors une île certes à l'échelle d'un continent, mais que cette île, eh bien, il faut penser la guerre d'abord sous la forme de guerre navale. Et les premiers géopoliticiens, les premiers stratèges américains seront d'ailleurs des gens qui s'intéresseront à la mer. Et vous connaissez tous, évidemment, les travaux de l'amiral Alfred Thayer Mahan, qui a écrit un livre classique, hein, « The Influence of Sea Power Upon History ». Bon, je n'ai pas besoin de traduire, mon anglais, je pense qu'il est suffisamment francisé pour que vous le compreniez. Alors, c'est d'ailleurs par la mer et grâce à la mer que les États-Unis vont faire sentir leur influence internationale. C'est, on a tous en mémoire, l'escadre du Commodore Perry qui finalement ouvre le Japon à l'influence américaine et plus généralement à l'influence occidentale. Quelques 50 ans plus tard a lieu la guerre contre l'Espagne à Cuba et là on voit les Américains déjà développé des techniques de guerre amphibie extrêmement sophistiquées pour l'époque. On voit les Américains donc soutenir les troupes débarquées avec les canons de la flotte. Enfin, il y a vraiment un savoir-faire qu'ils vont petit à petit améliorer, ce qui leur permettra plus tard de prendre l'ascendant sur le Japon et d'organiser le débarquement du 6 juin 1944. Alors, toujours à la fin du 19e, au début du 20e, il y a un phénomène extrêmement intéressant à souligner, c'est la décision du président Roosevelt d'envoyer en croisière autour du monde une escadre américaine. C'est The Great White Fleet. Et là, le président décide d'envoyer 16 cuirassés et croiseurs américains, tous peints en blanc. Donc, c'est pas très guerrier, mais comme ils sont peints en blanc, ça se voit, ça impressionne. 14 000 marins, ils vont aller partout dans le monde entier, ça va durer 14 mois. Et donc, si vous voulez, c'est une démonstration navale qui intervient 2 ans après Tsushima. C'est pour montrer au monde que les États-Unis sont devenus une puissance militaire et notamment une puissance navale d'importance. Alors, en même temps, cette démonstration de force va leur servir, eh bien, à, j'allais dire, exercer certaines pressions amicales, mais néanmoins très fortes, à l'encontre d'un certain nombre de pays, et notamment le Japon, pour contraindre le Japon, exactement pour inciter le Japon à développer le commerce avec les États-Unis. Et ce sont les fameux accords Ruta-Kahira sur justement le développement du commerce au profit des États-Unis avec les Japonais. Et donc là, on voit se mettre en place ce qu'on appelle en bon français la gunboat diplomatie, ou la diplomatie de la canonnière, hein, où on utilise ces énormes moyens maritimes pour exercer des pressions ici et là. Alors aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit plus de cuirassés, mais de porte-avions. Et vous savez que la marine américaine est la seule à disposer de 11 grands porte-avions qui sont capables donc, d'intervenir à l'échelle de la planète. Alors, juste une petite parenthèse, cette expédition de la Great White Fleet, ben finalement, elle va donner des... C'est un exemple pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, quand on voit les Chinois qui envoient leur marine, alors c'est pas la Great White Fleet, mais c'est un peu comme ça, ben finalement, il y a un précédent et finalement, ben, ils s'inspirent utilement, si je puis dire, de ce qu'avaient fait les États-Unis au début du XXe siècle. Alors, la dimension continentale dans l'espace euro-asiatique de la politique militaire des États-Unis va prendre corps à l'occasion du second conflit mondial. Alors tout d'abord, ce second conflit mondial, il va forcer les Américains à clarifier leur position géopolitique stratégique sur l'échiquier international. Et là, il y a des travaux extrêmement intéressants. Ce sont les travaux de Richard Spykman, donc un géopoliticien américain, disciple de Mahan, qui va s'inspirer, lui, Spykman, des travaux du Britannique Mackinder, que vous connaissez tous, j'imagine. Et Spykman dit, en l'occurrence, on est en 1942-1943, ce qui va compter après la guerre, c'est de contrôler le pivot. Le pivot, c'est-à-dire le Rimland, c'est-à-dire cette zone côtière qui va de la Norvège jusqu'au Japon et qui ceinture le bloc communiste URSS et Chine. Et donc, pour nous, Américains, dit-il, il est essentiel d'avoir des alliés, d'être présents sur ce Rimland. On est en 1942-43, on ne parle pas encore de l'OTAN, etc., mais tout ça va percoler très utilement dans les réflexions des stratèges américains. Autre élément concernant ce second conflit mondial, alors c'est plus militaire, c'est davantage militaire, ce second conflit va mettre en évidence un mode de guerre où la puissance de feu et la logistique vont apparaître comme étant les caractéristiques de la guerre à l'américaine. Puissance de feu, logistique. Alors la puissance de feu, elle réduit l'intérêt de la manœuvre et pour ce faire, les Américains vont capitaliser sur ce qu'il possède en quantité, le dollar. Et le dollar, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'acquérir une quantité extraordinaire de matériel et de munitions qui vont être littéralement projetées sur l'adversaire. Et on en a un exemple illustre, si je puis dire, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est la réduction de la poche de Falaise en juillet 1944, où se trouvent des unités allemandes particulièrement bonnes, particulièrement d'élite, si l'on peut dire, et elles vont être réduites en charpie. Et c'est le cas notamment de la Panzerlehr, une des meilleures unités de l'armée allemande de l'époque. Alors, dans ces conditions, la logistique est essentielle, c'est-à-dire la capacité d'acheminer comme il convient, au moment où il faut, la quantité de matériel dont on a besoin. C'est celle qui prime sur toute autre caractéristique de l'art de la guerre, et par conséquent, le chef de guerre américain, ça doit être un logisticien. Et c'est pour ça qu'on choisira, non pas le plus brillant des généraux américains en termes de manœuvre, mais le plus brillant parce qu'il a ce talent d'organisateur, c'est le général Eisenhower, qui va être chargé justement de mettre en musique cette énorme machine qui va utiliser une énorme quantité de matériel. Alors, cette importance du matériel, de la logistique, cette puissance industrielle qu'il y a derrière cela, eh bien, tout ça ouvre aux Américains des domaines inaccessibles à la plupart ou à la quasi-totalité des pays. En effet, cette machine industrielle, elle produit, mais elle mène aussi des recherches, elle avance, elle connaît davantage de procédés, elle avance dans des domaines où personne ne peut les suivre, c'est notamment le nucléaire. Et c'est cette grande machine, si vous voulez, qui va permettre aux Américains, avec l'aventure du projet Manhattan, eh bien, d'être les premiers à disposer de l'arme atomique. Et dans le projet Manhattan, on parle souvent des savants, Oppenheimer, etc., on sous-estime le rôle d'un logisticien, d'un organisateur, d'un manager, qui était le général Grove, qui a porté le projet Manhattan, qui ne l'a pas porté scientifiquement, mais qui l'a porté en termes de capacité industrielle, de recherche, etc. Alors, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là, il y a le réflexe de, finalement, de rapatrier les boys. Hein, on a, ça y est, mission accomplished, comme dirait le président Bush un peu plus tard. Et donc, pourquoi rester en Europe ou en Asie? On rapatrie tout le monde, sauf que, eh bien, il y a un certain nombre d'Américains qui sonnent le tocsin et qui disent, attendez, on ne peut pas partir parce qu'il y a une nouvelle menace, c'est la menace soviétique, et c'est le fameux long télégramme de Kennan, de George Kennan, de 1946, qui va déboucher sur la doctrine politique de containment. Il va falloir contenir ce bloc soviétique, et puis après, quelques années après, il y aura les Chinois. Il faut les contenir. Si on ne fait rien, si on n'aide pas les alliés en Europe ou en Asie, eh bien le soviétisme va contrôler le Rimland, finalement. Et s'il contrôle le Rimland, eh bien, nous, Américains, serons dans une situation extrêmement délicate d'un point de vue stratégique. Donc il y a le containment, il est essentiellement politique, économique, c'est le plan Marshall, et il va prendre une dimension militaire avec le fameux document qui s'appelle le NSC 68, National Security Council, document 68, élaboré, lui, par un grand Américain également, qui s'appelle Paul Nitze. Alors à partir de là, on peut dire que les Américains ont accepté le containment, ils vont donc créer un réseau d'alliances, l'OTAN, l'OTAS, le CENTO, le traité d'alliance et de paix avec le Japon. Et donc, eh bien, ça y est, l'idée de Spikeman, elle est réalisée, en quelque sorte. On contrôle le Rimland, on a des alliés, on a des alliances, et on a des forces militaires qui soutiennent tout cela. Et donc, eh bien, il va y avoir une politique impériale qui va se mettre en place. Et là, il va d'abord falloir créer une structure politico-militaire adaptée. On n'est plus replié sur nous-mêmes, nous, Américains. On est, au contraire, on est partout. Donc, il va y avoir la mise en place d'une structure. C'est l'objectif ou l'objet du National Security Act de juillet 1947 qui crée d'abord auprès du président. Il y a deux organes qui sont créés, la CIA et le Conseil national de sécurité, NSC. Et puis on crée finalement ce grand département de la défense. À l'époque, on l'appelle le National Military Establishment, ça deviendra le Department of Defense, c'est-à-dire le Pentagone. Et on va créer, en même temps qu'on crée ce département de la défense, on va définir le rôle et les fonctions du nouvel état-major, c'est le Joint Chief of Staff, le comité des chefs d'état-major. On va créer des grands commandements fonctionnels et opérationnels, et là, les Américains sont les seuls à l'avoir fait et à les garder aujourd'hui, c'est-à-dire que la planète est divisée en grands commandements, à la tête desquels se trouvent évidemment des officiers généraux américains. Et par exemple, aujourd'hui, si on prend la zone Asie-Pacifique, il y a le Pacific Command, qui est un grand commandement américain, à la tête duquel se trouve un amiral qui a un pouvoir extraordinairement impressionnant. Et puis, on va... alors, en même temps qu'on crée cela, en même temps, on tâtonne un peu, on a besoin de savoir comment on va faire. Alors, j'ai parlé du long télégramme, du containment, mais c'est aussi une époque où on ne sait pas qu'on va encore définir cette politique, et on se demande quel type de force armée avoir. Et le président Truman, en octobre 1945, dit, voilà, on a trois options. La première option, c'est de garder une petite armée, armée au sens Navy, Army, Marine Corps, et ce qui n'était pas encore l'US Air Force, donc petite armée, mais on l'a repliée chez nous. On a une sorte de grande réserve, c'est la garde nationale, mieux organisée, mieux structurée. Ou alors, on revient à l'idée originelle de la République américaine avec les Minuteman, c'est-à-dire on a une population masculine entraînée au tir, au maniement des armes, etc. Et cette population, bah, s'il le faut, on va la mobiliser, on va l'organiser, et puis on la mettra au combat s'il le faut. Donc on hésite. En réalité, les choses vont aller très vite, et ça va être la création, en effet, de forces armées américaines tout à fait impressionnantes, avec une nouveauté, il faut le souligner, jusqu'en 1945, l'aviation était rattachée à l'armée de terre. Et compte tenu de ce qu'a fait l'aviation américaine durant le Second Conflit mondial, il est décidé de la séparer de l'armée et on crée l'US Air Force, d'autant plus que les bombes atomiques étant là, et bien il faut, c'est bien le service qui va utiliser ces nouveaux engins, donc on crée l'US Air Force. Autre hésitation, précisément, c'est l'arme atomique. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une super artillerie, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais comment, si vous voulez, l'utiliser à des fins politico-militaires? Quel défi, si vous voulez. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Donc, il va petit à petit, les Américains vont réfléchir. Alors, les premiers à réfléchir, c'est des officiers généraux qui ont participé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Ils se disent, on va refaire la même chose. Alors, on n'a pas tellement de bonnes indications sur les cibles en URSS, mais on sait qu'à tel endroit, il y a par exemple une gare de triage. Donc, on largue les bombes. Et puis, comme il disait à l'époque, il y aura du bonus damage. C'est-à-dire qu'à côté de la gare de triage, il y aura peut-être une usine électrique, il y aura peut-être une usine de construction de chars. Donc, ce sera du bonus. Mais si vous voyez, c'est très aléatoire. Et puis, donc, il va falloir petit à petit affiner tout cela. On va le faire d'autant plus qu'on a de plus en plus de renseignements. Au début, les renseignements, c'est l'interrogation des prisonniers japonais ou des prisonniers allemands qui reviennent des camps soviétiques. Et puis, petit à petit, on va faire des vols de reconnaissance, y compris avec la RAF. Il y aura des centaines d'avions américains et britanniques qui vont être descendus par les soviétiques. Mais on commence à connaître un petit peu mieux les choses. Et puis, évidemment, à partir du moment où apparaissent les moyens satellitaires, eh bien, là, on aura tous les instruments qu'il faut pour mieux connaître la nature de l'adversaire et mieux définir les plans de guerre nucléaires américains. C'est en même temps une époque où, justement, on tâtonne et on a besoin des civils. On a besoin des civils parce que le nucléaire, c'est pas... Bien sûr, c'est utilisé par les militaires, mais c'est une arme d'une nature tellement particulière que les civils doivent participer à la réflexion. Et là, on a toute une école de grands stratèges américains qui sont essentiellement à l'origine des économistes, mais pas seulement, Thomas Schelling, Albert Wohlstetter, Hermann Kahn, Bernard Brody, etc., etc. Et puis, on crée les premiers grands think tanks. Alors, certes, le premier grand think tank, c'est le Council on Foreign Relations, qui est créé immédiatement après la Première Guerre mondiale. Mais là, on va créer les grands think tanks du style Rand Corporation. Et puis, toujours le tâtonnement, c'est quelle responsabilité entre les armées. On a la US Navy, US Marine Corps, Army et Air Force. Mais qui fait quoi? Ça va être extrêmement compliqué parce que chacun défend son pré carré. Et heureusement, il y a eu l'acte de 1947 qui crée le département de la défense. On essaye d'unifier ça. Un homme va jouer un rôle important, c'est le secrétaire à la défense, James Forrestal, qui va vraiment d'une façon très, très, très forte, très vigoureuse, eh bien, forcer les services à bien définir leurs rôles respectifs. Il va le faire d'une façon magistrale, mais ça va l'épuiser et il va se suicider. Alors, en même temps, on voit bien que là, c'est plus du tâtonnement, mais c'est de l'hésitation. L'hésitation en termes de stratégie militaire. Qu'est-ce que l'on fait? On a ce réseau d'alliances, on est présent sur le Rhineland. Alors, est-ce qu'on met tout le gros des forces américaines outre-mer? Où est-ce qu'on le garde aux États-Unis? Question. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxièmement, si on a affaire à la guerre, qu'est-ce que l'on fait? Alors on a bien vu ce qu'avaient fait les Allemands, c'était quand même de redoutables manœuvriers. Est-ce qu'on ne pourrait pas devenir manœuvrier à notre tour? Donc là aussi, durant 40 ans, durant toute la période de la guerre froide, une espèce d'oscillation, donc déploiement aux États-Unis, déploiement outre-mer, manœuvre ou au contraire guerre d'attrition. La guerre d'attrition pour l'US Army, c'est ce qu'ils appelaient l'active defense. Et puis en 1982, ils vont choisir un mode opératoire extrêmement manœuvrier, c'est Airland Battle, hein, qui va là, au contraire, très loin dans le sens de la manœuvre. Il y a également, avec cette montée en puissance, avec ce développement de l'armée américaine, il y a la nécessité, et c'est consubstantiel aux États-Unis, eh bien, de voir plus loin, de voir davantage, de voir mieux. Y compris dans les outils qu'on va utiliser. Donc, on va créer un énorme complexe, si on peut dire, de recherche-développement. Et en 1958, on crée la DARPA, qui est l'agence de la recherche, si vous voulez, militaire américaine, qui va porter d'énormes projets qui vont avoir des retombées, évidemment, civiles. Mais on voit bien, si vous voulez, que là, les États-Unis s'orientent vers une voie dans laquelle la recherche en matière de haute technologie, devient centrale dans leur posture de défense. Et cette haute technologie, elle va, si j'ose dire, elle va être vraiment portée sur les fonds baptismaux d'une façon assez extraordinaire, à l'occasion d'un grand rapport, en fait c'est une série de rapports, mais bon, qui s'appelle Discriminate Deterrence. C'est 1983, on est à la fin de la guerre froide. Ces deux grands stratèges civils qui vont piloter l'ensemble, Albert Wohlstetter que j'ai évoqué et Fred Hickley. Et ce rapport discriminé de différence, que dit-il en substance? Il dit beaucoup de choses, mais en substance, il dit, ben voilà, nous, Américains, on a vraiment un avantage sur tout le monde, l'argent, le savoir-faire, la haute technologie. Et donc, notre outil militaire, il doit être de plus en plus haute technologie. Parce que là, ça nous donne une avance contre n'importe quel compétiteur. Et donc, ce rapport discriminé de différence, il est fondateur, si vous voulez, de la politique militaire américaine aujourd'hui. Parce que, donc, on est en 1989, fin de la guerre froide, hésitation, etc. Mais l'idée que cette haute technologie va apporter toutes les solutions qu'il faut pour les Américains, elle va être, incorporée dans la réflexion militaire à l'occasion de deux rapports, notamment d'un rapport, on ne va pas compliquer les choses, de 1997, qui s'appelait le National Defense Panel, et qui va vraiment dans le sens de discriminer l'itérance, sauf que là, il rentre, si je puis dire, dans les détails militaires. Et cette idée donc de transformer l'outil militaire américain pour le rendre technologiquement extraordinaire, c'est une idée qui va être reprise par le président George Bush lors de sa campagne électorale. Et donc, la transformation va devenir le mot sacré aux États-Unis. Et certaines voix commencent à dire néanmoins, bon, certes, il faut aller vers la haute technologie, mais qu'est-ce qui se passe si notre adversaire ne joue pas le jeu? Si il mène des combats, et vous avez tous entendu le terme, des combats asymétriques. Cette haute technologie risque de ne pas servir à grand-chose. Mais néanmoins, c'est devenu le leitmotiv, c'est devenu vraiment l'objectif des États-Unis. Et il y aura des résultats, notamment, alors ils le disent de cette façon-là, il y a une dialectique nouvelle entre chasseurs et chassés, finders et hiders. C'est-à-dire, vous cherchez un adversaire, vous le chassez. Et donc, les nouvelles technologies vont vous permettre de mieux l'appréhender. Et cette dialectique et les projets de technologie qu'il y a derrière, en fait, ils vont déboucher, et ils débouchent aujourd'hui, sur, par exemple, l'utilisation massive de drones, vous savez, ces avions sans pilote, par l'administration Obama. J'y reviendrai dans un instant, si j'ai encore quelques minutes. Alors, très peu. Alors donc, La transformation se fait, mais au moment où elle se fait, il y a évidemment cet événement extraordinaire qui est le 11 septembre. Donc, les forces armées américaines vont être soumises à une double pression qui va être extrêmement coûteuse. La pression de la transformation, extrêmement exigeante en termes de crédit, et les nouvelles guerres qu'il faut mener consécutivement au 11 septembre. Et ces nouvelles guerres, entre 2001 et 2012, elles vont coûter 1 000 milliards de dollars. La guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, c'est 1 000 milliards de dollars. À cela s'ajoute le doublement en termes réels du budget militaire américain, à la fois à cause de la guerre et à cause des exigences de la transformation. Et ça crée évidemment une ponction énorme sur les ressources américaines au moment précisément où intervient cette crise financière et économique des années 2008-2009. Donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve aux États-Unis avec un petit peu dans une sorte d'impasse. On a cet objectif de transformation. Et puis en même temps, on sait qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que les crédits vont être réduits, c'est évident. Alors je passe sous silence, ou j'en dis juste un mot, c'est que cette transformation, ça va être aussi utilisé par les Américains pour offrir une façon de penser la guerre et de faire la guerre à leurs alliés. Donc c'est à la fois généreux, il faut les remercier, mais en même temps, il y a des objectifs politiques derrière tout ça. Parce que si vous achetez notre système de guerre que vous n'êtes pas capable de produire, parce que c'est trop compliqué, trop complexe et trop cher, vous allez finalement bénéficier de ce qu'on sait faire, mais il faut bien voir que ça a un coût. Et là, je voudrais citer brièvement ce que disait, ce qu'écrivait il y a une quinzaine d'années un amiral, qui était à l'origine un peu de la transformation, l'amiral Owens. Il écrivait, c'est juste deux, trois lignes, « Nous pouvons établir une nouvelle relation avec nos alliés qui soit fondée sur l'avantage comparatif dont disposent les États-Unis dans le domaine du contrôle, de la surveillance, etc. etc. » Ces outils offrent une marge de supériorité et sont attractifs pour les nations, pour toutes les nations. Mais ils sont très coûteux à développer. Afin d'en bénéficier sans avoir à en supporter le coût, la coopération avec les États-Unis devient attractive. Cela offrira aux États-Unis un droit de regard dans la politique de défense de nos alliés. C'est clairement dit. Hein. Donc, voilà où on en est. Alors, pour terminer, donc aujourd'hui, clairement, d'un point de vue militaire, on assiste à une sorte d'essoufflement américain. Les États-Unis restent la puissance militaire dominante, reste la première puissance militaire au monde. Mais finalement, il y a une fatigue après ces 10 années d'engagement dans les conflits irakiens et afghans. Le matériel a été soumis à de rudes contraintes. Il y a eu des pertes, il ne faut pas l'oublier. Certes, ce n'est pas très énorme, 6587 tués et 50 000 blessés, mais enfin, ça laisse des séquelles. Et puis, si vous voulez, il y a ce problème du déficit du budget fédéral, le problème de la dette, pour le règlement de laquelle Washington empruntait à la fin de 2012 plus de 31 milliards de dollars par semaine. 31 milliards de dollars, c'est grosso modo le budget de la défense française. Alors aujourd'hui, donc, essoufflement. Et puis, un facteur nouveau, et je terminerai là-dessus, c'est que finalement, ces projets de haute technologie, eh bien, ils vont être repris par la CIA, qui va devenir de plus en plus active d'un point de vue militaire. Elle était déjà devenue active militairement parlant, parce que c'est elle qui, la première, envoie ses équipes en Afghanistan en septembre-octobre de 2001. Et c'est elle qui gère, si vous voulez, toutes les attaques par drone, qui sont donc des attaques destinées à éradiquer un certain nombre de malfaisants. Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, ça pose un énorme problème aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'il y a deux types de cibles. Il y a les personality strikes, c'est-à-dire que vous avez identifié telle personne comme étant terroriste, donc le président, lui, décide lui-même qu'il faut détruire, tuer cette personne. Le problème, c'est que maintenant, on lui propose ce qu'ils appellent des signature strikes. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, dans cet auguste hôtel particulier, la Fondation Signo del Ducasse se réunit à un groupe de dangereux terroristes. Donc il faut les tuer. Mais on ne sait pas si on va les tuer tous, si vraiment ils sont tous terroristes et s'il n'y a pas des gens qui n'ont rien à voir avec les terroristes. Donc ça pose d'énormes problèmes en termes éthiques, en termes politiques, et l'administration Obama réfléchit à cela. Alors, pour terminer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si on est pessimiste, on dit c'est le déclin américain. Personnellement, j'y crois pas du tout. Si on est réaliste, eh bien, on dit que les Américains ont de nouvelles arcs, de cordes à leurs arcs, ces nouvelles cordes à leurs arcs leur permettent un certain nombre de choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais dans tous les cas, il me semble qu'il y a quand même un retour des États-Unis sur eux-mêmes. Un retour qui n'est pas l'isolationnisme, parce qu'ils se sont précisément dotés des moyens d'action à l'échelle planétaire pour soutenir leurs alliés, pour agir. Ils se vivent comme, je suis désolé du jargon, c'est « offshore balancer ». Je suis loin et je peux peser sur un théâtre d'opération. Et je peux donner à mes alliés une aide logistique, une aide de renseignement et une aide de frappe. Alors à la fois, ils font cela, et en même temps, ils sont en train de développer de nouveaux outils qui ne sont pas strictement militaires, mais qui leur permettent d'avoir une action, de peser sur un adversaire. Ce sont les drones, mais là, on peut dire que c'est quand même du cinétique. Et de plus en plus, c'est la cyberguerre, c'est-à-dire l'utilisation des outils informatiques pour peser sur un adversaire donné. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Boyer, pour ce merveilleux exposé illustrant la capacité d'une démocratie à préparer et à faire la guerre par tâtonnements successifs, par exploration des problèmes et des solutions, et ce, sur plus de deux siècles, en passant à travers des contextes radicalement différents. Je ne sais pas si c'était votre intention, mais si ça l'était, c'est très réussi. Alors, nous avons quelques minutes pour essayer de vous torturer un peu. Qui demande la parole ? Monsieur Besançon.
Admirable conférence. Admirable conférence, en effet. Une remarque, c'est l'obsession de ne pas perdre d'hommes. Je crois que c'est le grand traumatisme de la guerre de Sécession, qui était la guerre de loin la plus coûteuse en hommes du XIXe siècle. Hein, 600 000 morts, et à l'échelle du Sud, c'était des pertes style France en 1918. Deuxième point, cet énorme accent sur la technique, est-ce que ça n'a pas quelquefois entravé l'analyse politique ? Je trouve que souvent l'analyse politique est plus faible que la révolution splendide militaire que l'Allemagne que les États-Unis ont conduite pendant la guerre. Moi, je me souviens, à Washington, j'étais à une conférence en 1978 avec des gens de la CIA à Washington. C'était effrayant. Le bluff soviétique marchait aux États-Unis. Il n'était pas percé. Comme Mao Tse-tung disait que c'était un tigre de papier, mais c'était justement ce dont les Américains n'ont jamais été capables de comprendre. Et nous étions avec un Anglais qui était la bête. Nous prenions la tête entre les mains devant ce que disaient les gens de la CIA.
Trois points qui sont en effet des points d'importance. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la guerre de Sécession, c'était traumatisant, mais je crois que l'idée de ne pas perdre d'hommes, c'est ne pas perdre d'hommes pour des conflits qui, certes, touchent les intérêts américains, mais ce ne sont pas des intérêts vitaux américains. Et par conséquent, certes, on va se battre aux côtés des Anglais, des Français, etc., mais il y a un moment où il ne faut pas risquer trop de vie américaine, parce que c'est pas nécessairement nos intérêts vitaux qui sont en cause. Donc il faut minimiser les risques de perte. Et puis on peut le faire d'autant plus que, comme je l'ai dit, on a l'argent, on a le dollar, on a l'industrie, etc. Alors la technique qui pèse sur l'analyse politique, là aussi je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est très anecdotique, mais je me souviens, il y a peu de temps, j'étais en discussion avec quelqu'un qui travaille aux États-Unis, mais dans les cercles officiels, évidemment, et on parlait de ces fameux explosifs improvisés, vous savez, ces bombes qui sautent là. Et cette personne, donc c'était un gros calibre, si j'ose dire, me dit, mais Yves, c'est pas un problème pour nous. On va investir plusieurs milliards de dollars et on va trouver la solution aux AIDs. Je dis, non, vous n'allez pas trouver la solution. C'est pas seulement technique. Puis vous, d'abord, techniquement, vous n'y arriverez pas. Et puis, derrière ça, c'est pourquoi les AIDs, qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les insurgés, etc. Donc, une polarisation sur la technique qui, parfois, parce qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer, pèse sur leur analyse politique. Alors, le autre domaine, c'est vrai qu'il y a une tentation de privilégier tout ce qui est collecte d'informations. Et le problème, c'est que l'information, ce n'est pas nécessairement du renseignement. Parce que vous pouvez avoir des millions d'informations, mais comment les bien digérer pour que ce soit des renseignements de nature politique ou de nature militaire. Et là, je dois dire que les Américains, parfois, pêchent par excès. Et je dirais heureusement, ils ont des alliés. Ils ont notamment les alliés britanniques, qui sont pas mauvais dans le genre. Et ils ont les alliés français. Alors, c'est pour ne pas faire cocorico, mais je crois qu'on a quelques qualités. Et notamment, on a une qualité d'esprit de synthèse. Et en matière de renseignement, c'est extrêmement utile. Et ça nous permet de bien collaborer avec nos amis américains.
J'aimerais vous poser une question un peu dans le même sens que celle de M. Besançon. J'ai le sentiment que les États-Unis font la guerre ou conduisent la guerre avec comme objectif la victoire totale. Je ne dis pas la guerre totale, mais la victoire totale. Autrement dit, on ne vise pas un compromis, on vise la victoire totale. Est-ce que cela est lié au fait que... non seulement la démocratie, mais de ce que toutes les guerres américaines, à connaissance, sans aucune exception, ont été des guerres en système dit polaire et non pas dans un système que j'appellerais oligopolaire où, par nature, les objectifs sont limités et, par conséquent, la victoire totale n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, quel est le rôle, si vous voulez, des systèmes d'action dans lesquels les États-Unis ont été engagés depuis leur naissance?
Oui, c'est une question qui est extrêmement difficile. Je pense qu'il y a quand même, derrière l'idée de victoire totale, ou de victoire tout court, il y a quand même en fond de tableau, alors ça n'est pas militaire, c'est l'idée que la destinée manifeste. Finalement, on a un adversaire. Mais nous, peuple américain, on a été choisi par la Providence, c'est la doctrine de la destinée manifeste. Donc on est la nouvelle Jérusalem, on est le phare de l'humanité, et donc si on se bat, on se bat pour le bien. Et si on se bat pour le bien, c'est qu'en face de nous, on en a qui se battent pour le mal. Donc faut tuer le mal. Donc finalement, l'adversaire, faut le réduire à rien, faut le réduire à néant. Et puis, de surcroît... Il y a, j'allais dire, ce que permet, ce que ne permet pas l'outil dont on a la disposition. Par exemple, je fais la guerre totale contre l'Allemagne, contre le Japon, et je vais y aller avec toutes mes forces. C'est-à-dire, je vais utiliser des milliers de bombardiers, et puis là, je vais frapper d'une façon non sélective, parce que l'outil ne me permet pas d'être sélectif, ou ne me permettait pas d'être sélectif. Alors aujourd'hui, ça change un petit peu, à mon avis, cette idée de guerre totale ou de victoire totale, à la fois parce que nos systèmes modernes sont très liés à l'informatique et donc on peut neutraliser l'adversaire par du soft kill, si on peut dire. Et puis d'autre part, il y a cette précision chirurgicale où on cible les leaders et si on les décapite, si je puis dire, eh bien le reste ne suivra pas. C'est une idée qui était déjà sous-jacente dans l'évolution des plans nucléaires américains avec la doctrine, le PD-59, c'était doctrine Carter, on est en 1980. L'idée, là, dans les plans de frappe nucléaire américains, ils le disent aux soviétiques, nous, on ne va pas rayer l'Union soviétique. Simplement, on sait où vous trouvez. On a des armes très précises, armes atomiques, certes, mais on va frapper les endroits où vous vous trouvez. Donc, ce sont des frappes de décapitation. Et si on décapite le leadership soviétique, le reste s'effondrera. Donc, déjà, on avait quand même l'idée, si vous voulez, d'une sélectivité. Alors, certes, avec des armes atomiques, mais de plus en plus, maintenant, c'est une sélectivité avec des moyens classiques qui limitent les dommages collatéraux, comme on dit aujourd'hui.
Vous venez d'entendre la communication d'Yves Boyer, professeur à l'École Polytechnique, intitulée « Penser, préparer et faire la guerre à l'américaine » dans le cadre du colloque international « Guerre et politique ». Retrouvez l'ensemble des communications du colloque sur Canal Académie.